Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les 3 étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. C'est une première sur Build Yourself et aujourd'hui on parle de marketing d'influence. Peut-être que vous avez déjà considéré le fait de travailler avec des influenceurs pour faire connaître votre activité, pour peut-être générer plus de ventes, que vous ayez un business de produits physiques ou encore de produits digitaux. C'est quelque chose qui pourrait peut-être vous aider. Pour aborder ce sujet, je n'ai pas trouvé meilleure personne que Jade Provençal. Jade est une femme que j'ai rencontrée, je crois que c'était en 2019, quand j'étais encore blogueuse et influenceuse, en plus de faire de l'entrepreneuriat. Nous avons collaboré puisqu'elle travaille dans une agence et on a fait un voyage presse ensemble et finalement on est resté en contact. Et quand j'ai vu il y a quelques mois qu'elle s'était lancée à son compte et qu'elle se spécialisait dans le marketing d'influence et qu'elle allait aider les marques à entrer en relation avec les influenceurs, mais je me suis dit que ce serait peut-être la superbe occasion de l'inviter ici pour qu'elle puisse nous expliquer si effectivement ça s'adapte à tout type d'entreprise ou si c'est réservé à un type d'activité et surtout comment faire finalement pour que la collaboration se passe au mieux. Donc si c'est un épisode qui vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez connectés. Salut Jade, bienvenue sur Build Yourself, comment vas-tu ?
Salut, ben ça va très bien et toi ?
Ben, très bien, je suis contente de pouvoir discuter avec toi en tête-à-tête direct, tu vois, ça change un peu d'instinct.
Carrément, et puis c'est cool parce que du coup c'est un peu des retrouvailles aussi, parce qu'on avait échangé ensemble, on avait fait un super séjour ensemble, et puis là du coup, après quelques années, c'est trop bien.
Carrément, alors pour la petite histoire, je vais mettre en contexte parce que je sais que tout le monde dans mon audience n'a pas forcément connaissance de mon parcours, donc avant d'être... dans l'entrepreneuriat, de vendre des formations en ligne, des accompagnements, etc. J'étais blogueuse, lifestyle et voyage. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, puisqu'on a fait un voyage de presse ensemble, avec d'autres influenceurs. Et effectivement, on s'est rencontrés là, puis on est restés en contact, puisqu'on a passé un très bon moment. Et puis, sur Insta, j'ai vu que tu te lançais à ton compte, et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de t'inviter ici pour parler de marketing d'influence. Ouais. Mais est-ce que pour commencer, tu peux m'expliquer finalement comment tu as démarré là-dedans et ce qui t'a amené à travailler dans cette agence dans laquelle on s'est rencontrés ?
Ouais, bien sûr. Et ben en fait, si tu veux, j'étais en train de terminer mes études. Je remonte à vraiment très très loin, mais c'est parce que comme ça, moi, ça met en contexte, tu vois. En fait, j'étais en train de finir mes études quand le marketing d'influence a vraiment commencé à prendre de l'essor. Ouais. C'est genre 2015, 2016, 2017, on a commencé à avoir énormément de collaborations dans les blogs, les Instagram, les YouTube, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressée parce que moi, je faisais des études de com. Mmh. Et puis, bah, j'ai grandi là-dedans, tout simplement. Et donc, j'avais fait un mémoire à l'époque sur l'impact que les influenceurs peuvent avoir sur la consommation, sur leur communauté en fait. Et de ce mémoire-là, ensuite, j'ai cherché mon stage de fin d'études et je suis arrivée dans cette agence parisienne qui est spécialisée en com digital. Et en fait, le stage de fin d'études s'est transformé en CDI et j'y suis restée 3 ans et demi. Et franchement, ça a été une expérience trop bien parce que du coup, j'ai vraiment appris en fait à faire du marketing d'influence et à monter des projets. Et j'avais des clients qui étaient vraiment hyper différents les uns des autres. Bah, je travaillais avec le Puy du Fou, bah, avec toi, tu vois. On a fait le Yoche Pasquier, il y a eu Speedy, il y a eu Once, le site de rencontre, il y a eu Columbus Café. Enfin voilà, j'ai rencontré plein de marques hyper sympas. J'ai fait plein de projets hyper sympas. Et puis en fait, après 3 ans et demi, puis il y a le Covid qui est passé par là, oui, etc. et ben en fait, j'ai eu envie de retourner dans mon sud natal, tout simplement. J'avais envie de retourner dans le sud pour des raisons perso. J'ai rencontré mon chéri dans le sud, etc. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que j'étais un peu appelée par ici. Et en fait, en rentrant dans le sud, j'ai voulu un petit peu m'ouvrir à d'autres choses. Mmh. Je me suis dit, je vais sortir un peu peut-être du marketing d'influence, aller voir ce qui se passe en com... événementiel, enfin dans la com au sens très très large du terme, parce que moi j'ai étudié dans la com très très large. Et puis j'ai eu une très courte expérience d'un mois.
C'est mal passé?
En fait, c'est pas que ça s'est mal passé, c'est que en fait je me suis rendu compte après des mois de télétravail, etc., que là, revenir dans du salariat avec un bureau, des heures, etc., en fait, c'est pas pour moi. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais si tu veux, que ce soit dans les études ou dans mon entourage, etc., moi j'ai pas d'entrepreneur dans mon entourage, ouais. Donc j'ai baigné dans cette ambiance là où il faut trouver un CDI, se mettre dans un poste, puis bien gagner sa vie, avoir une vie tranquille, et puis voilà quoi, être dans la stabilité. Et donc je me suis pas trop posé de questions, j'ai enchaîné avec un CDI dans une agence de com et tout, ça se passait super bien, j'avais des projets très canons et voilà. Et puis en fait, après, avec le confinement, le télétravail, etc., le fait de revenir après dans un bureau avec des heures très cadrées et tout, là, je me suis rendu compte que c'était en décalage avec, avec ma façon d'être, avec la façon dont j'avais envie de travailler, etc. Et puis, au-delà de ça, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, le marketing d'influence, c'est ce qui me branchait vraiment, en fait. Oui. Que j'avais essayé, je me suis dit, bah, tiens, je vais m'ouvrir un petit peu, je vais faire de la com plus générale. Mais en fait, j'avais toujours un œil sur les réseaux sociaux, sur les collaborations et tout. Et c'est ça qui me plaisait, en fait. Et donc, après un mois, je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi, on va arrêter. Voilà, on va... Et franchement, ça m'a fait peur. Hein, parce que
ouais, c'est ce que j'allais te demander.
Ça m'a fait super peur. Je me suis dit, non, tu vas arrêter ta période d'essai, t'as un CDI, t'es bien, t'es tranquille et tout. Franchement, mais je l'ai fait. Et puis, et je l'ai fait parce que j'avais cette idée, en fait, cette envie de me lancer à mon compte.
Ouais.
Ce truc-là de me dire, je pourrais vraiment organiser mes journées comme je le veux, je pourrais être libre, je pourrais vraiment travailler, voilà, quand j'ai des grosses phases de motivation, tu vois, et d'inspiration, etc., je pourrais vraiment mettre toute mon énergie là-dedans, même si, par exemple, je sais pas, moi, c'est de 20h à 22h, tu vois, et j'avais envie de ça, et aussi, j'avais envie d'accomplir un truc pour moi, en fait, ouais. de vraiment d'avoir cette satisfaction personnelle de se dire, à la fin de ma journée, ouais, j'ai fait ça, tu vois. Donc voilà. Et donc, marketing d'influence, envie de lancer mon projet, A plus B a donné, du coup, mon entreprise, quoi. Voilà.
Elle a combien de mois, ton entreprise?
C'est tout jeune. Globalement, si tu veux, j'ai arrêté ma période d'essai en début février. Février, j'ai réfléchi un peu le truc.
Attends, 2022 ou 2021?
Ah oui, 2022, pardon.
Ouais, ah ouais, ouais.
Ouais, plus récent. En fait, 2022, ouais, février 2022, j'arrête ma période d'essai, je réfléchis à ça, même si effectivement j'avais réfléchi hein, à me lancer à mon compte auparavant. Fin 2021, j'y réfléchissais, mais ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que ben, tout nouveau, instabilité financière, tu vois, tu penses à plein de trucs un peu négatifs ou ben, qui font peur, tout simplement. Et je me disais, ouais, il faut peut-être que je me lance un peu dans autre chose, dans la communication, etc. Et puis on verra après. Et puis bah, finalement, fin février, j'arrête ma période d'essai. Enfin non, début février, pardon, je m'embrouille dans les dates. Début février, j'arrête ma période d'essai. Je réfléchis vraiment, vraiment à lancer mon entreprise. Et début mars, je lance tout.
Ah ouais, c'est
Voilà.
express.
Donc là, ça fait 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois. Je lance tout. Enfin, quand je dis je lance tout, c'est parce que j'avais, si tu veux, enfin, j'ai lancé mon compte Insta, j'avais déjà un peu LinkedIn, et puis bah, j'ai réactivé un petit peu mes réseaux, que ce soit du côté influenceur et aussi du côté
Ouais.
marque. Et voilà, je me suis lancée. En fait, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Parce que si jamais je réfléchis trop, etc., en fait, je me connais et je vais faire machine arrière. Donc, ça ne sert
Bah, pour le coup, c'est
à
bien parce que là, ça a été très rapide. Au moins, y a pas eu le temps
rien.
de se remettre en question, de se dire et si,
C'est
etc.
ça.
C'est une bonne chose.
Après, ça veut pas dire, enfin, je pour ça veut pas dire que je me suis lancée sans stratégie ou
Oui.
sans ou, tu vois, sans filet, parce que j'ai beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux où on te vend l'entrepreneuriat comme un truc hyper rapide où tu peux être à ton compte, où tu peux faire, où tu vis ton activité super rapidement, etc. Et ça peut te donner des idées de te lancer en fait, à te baisser, tu vois, sans réfléchir, etc., sans vraiment poser les bases de ton business et tout. Et ça, c'est hyper dangereux, quoi. Et donc, moi, ça a été rapide, mais parce que je suis dans une période aussi où j'ai la possibilité, tu vois, d'être accompagnée par l'ARE Pôle emploi, etc. Donc, voilà, il y a plein de choses qui ont fait que c'était le bon contexte et que ça m'a permis de me lancer rapidement. Mais je n'aurais pas fait ça aussi rapidement dans une autre situation, quoi.
J'imagine bien. Est-ce que tu peux me définir ce qu'est une stratégie marketing d'influence? Voilà, comme ça, toutes les personnes qui nous écoutent savent ce que c'est et à quoi ça sert finalement.
Ouais, totalement. En fait, déjà pour commencer, moi, mon rôle, en fait, c'est d'être consultante en marketing d'influence. Et alors ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais donc du coup, pour simplifier, je suis le trait d'union entre les marques et les influenceurs. Et je permets, en fait, à des marques de pouvoir collaborer de façon hyper créative et impactante avec des influenceurs. Mais l'objectif pour moi, c'est vraiment de créer des collaborations qui soient saines, hyper transparentes, en fait, des collaborations qui soient éthiques, tout simplement. Donc, en fait, quand une marque a besoin de rayonner sur les réseaux sociaux, quand elle a besoin, voilà, de booster un peu son, quand un entrepreneur, en fait, a besoin de booster son business un peu au level supérieur et quand il a besoin, voilà, d'un peu plus de visibilité sur les réseaux, etc., bah, il y a la possibilité de collaborer avec des influenceurs, justement. C'est-à-dire, voilà, demander à ce que l'influenceur parle de ton business pour auprès de sa communauté, justement, pour avoir un peu plus de visibilité auprès de sa communauté. Et en fait, mon travail, c'est ça, c'est repérer les bons influenceurs pour ton business et imaginer le dispositif qui va être le plus percutant et le plus créatif pour ton business. Par exemple, si tu es dans, admettons, je vais prendre un exemple, hein, si tu es dans l'univers de l'e-shop et que tu as, par exemple, une marque de cosmétiques que tu vends en e-shop, ben, ça va être trouver le bon influenceur qui est spécialisé dans la cosmétique ou un influenceur plutôt lifestyle, donc qui parle un peu de tout, de son quotidien, etc. Et trouver la bonne personne avec la bonne taille de communauté, la bonne ligne éditoriale et proposer le bon dispositif qui va faire en sorte que ta marque soit ben, mise en valeur auprès de son audience. Est-ce que ça va être par exemple un placement de produit simple, un post Instagram par exemple, ou alors des stories sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, pour montrer, tester le produit, montrer son efficacité, etc. et montrer que l'influenceur le teste et l'apprécie. Voilà. En fait, le marketing d'influence, j'aime bien dire que c'est un océan d'opportunités créatives parce que en fonction de ton business, de ta et de ce que tu as envie de faire, il y a plein plein de dispositifs qui existent, il y a plein de créateurs de contenu qui existent sur les réseaux sociaux et qui peuvent mettre en avant ton business bah, de façon hyper sympa, cool et créative, quoi. Voilà.
D'accord, hyper intéressant. Du coup, forcément, la question que je sais que des gens vont se poser, est-ce que le marketing d'influence, ça fonctionne toujours en 2022? Est-ce que c'est toujours aussi efficace? Et finalement, en quoi ça aide? Est-ce que c'est bien pour peut-être fédérer une communauté, pour générer directement des ventes? Ou, tu vois, comment ça se passe finalement aujourd'hui?
Alors, déjà, le marketing d'influence, ça fonctionne, c'est clair. C'est clair, net et précis. On pourrait te donner des chiffres. Tu vois, il y a une étude qui avait été faite par Rich sur l'année 2022.
Ouais.
Et il y a plus de 85% des marques qui estimaient que c'était un levier de communication qui était hyper efficace.
Okay.
Donc, c'est déjà, tu vois, pour que les marques disent ça et investissent en marketing d'influence, c'est que derrière, il y a du résultat. Et en fait, il y a trois types d'objectifs qu'on atteint grâce au marketing d'influence et qui sont un peu en entonnoir, c'est-à-dire qu'il faut passer par le premier pour ensuite atteindre le deuxième et ensuite le troisième. C'est d'abord un objectif de visibilité, parce qu'en fait, quand tu collabores avec un influenceur, tu t'adresses à toute sa communauté sur les réseaux sociaux, donc que ce soit des nano-influenceurs qui ont entre 1 000 et 10 000 abonnés ou des ce qu'on appelle des macro-influenceurs qui ont plus de 100 000 jusqu'à 1 million d'abonnés. Donc, collaborer avec eux, ça te permet déjà d'avoir de la visibilité et de faire connaître en fait ton business. Donc c'est... Et puis après, en fonction du dispositif que tu mets en place, tu peux fédérer de nouveaux abonnés sur ton propre compte, sur le compte de ton business, notamment si tu mets en place des jeux concours, etc. Donc gros objectif de visibilité déjà dans un premier temps, gros objectif de notoriété. Puis une fois que tu as travaillé ça avec les influenceurs, il y a un deuxième objectif qui est de travailler toujours avec les influenceurs, le capital sympathie de ton business, la préférence de marque en fait, la désirabilité auprès des consommateurs. Et ça, ça passe justement par le lien humain que tu crées en fait avec l'influenceur et par extension avec sa communauté.
Mmh.
Du coup, c'est plus la marque qui parle d'elle-même et qui vante les mérites de son produit. Elle fait appel à un intermédiaire, une tierce personne qui va tester, qui va utiliser le produit et qui va donner son feedback, qui va le mettre en avant dans son quotidien. Et en fait, il y a toute une sorte d'histoire et de relation qui se crée avec la marque, l'influenceur et la communauté. Et donc, c'est là où tu travailles la désirabilité de ton business, la désirabilité de ton produit, tes services, et où tu travailles en fait finalement ta préférence de marque. Et une fois que tu existes dans l'esprit de ton audience, une fois que ton audience, elle kiffe ton produit ou ton service, ou du moins qu'elle a des valeurs communes avec ton produit ou ton service et avec ta marque, alors en fait, tu peux arriver à ton troisième objectif qui est de booster tes ventes. Parce que voilà, le consommateur, l'audience, elle t'apprécie. Et en fait, ben, si elle a un besoin, par exemple, en cosmétique ou en vêtements ou en décoration ou en alimentaire ou quoi que ce soit, eh ben, en fait, elle va penser à ta marque, elle va penser à ton business et ensuite, elle va aller chez toi en fait, pour acheter, pour passer à l'acte d'achat.
C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il y a aussi pas mal de marques et d'entreprises qui n'ont pas connaissance de ces trois niveaux. Et qui du coup espère peut-être tout de suite des ventes, alors qu'effectivement ça nécessite peut-être un peu plus de temps, le temps de construire un peu une confiance et d'être identifiable, comme tu le disais, auprès de l'audience, etc. Et
ouais.
J'ai l'impression que c'est pas une baguette magique non plus, quoi.
Non, exactement. C'est vraiment ça. Et c'est un peu tout le travail que j'ai à faire, moi, en amont avec une marque. C'est que déjà, effectivement, il faut qu'ils aient conscience de tous ces objectifs-là. Mais il faut qu'ils en aient conscience. Mais il ne faut pas tout de suite vouloir sauter en fait à la case vente, parce qu'effectivement, le marketing d'influence, ce n'est pas une solution miracle.
Ouais.
Et il faut, en fait, et ça, c'est pour n'importe quelle stratégie de communication de marketing, hein, il y a tout un cheminement pour amener l'audience vers l'acte d'achat, en fait.
Mmh.
Et si on ne te connaît pas, on n'arrivera pas, enfin, tu n'arriveras pas à générer des ventes. Et si on ne te connaît pas et qu'on n'apprécie pas forcément ce que tu fais, parce que l'expérience client ou parce que, je ne sais pas, le site internet ou parce que ton compte Instagram n'est pas bien orienté vers les besoins et les envies de ta cible, bah, tu n'arriveras pas à convertir non plus. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, effectivement. Après, ça peut se comprendre, parce que quand tu es un entrepreneur, quand tu as ta marque, etc., et que tu investis dans le marketing d'influence, tu vas avoir des résultats. Et c'est tout à fait logique, hein, parce que voilà, on n'investit pas dans le vent et puis on a envie que tout de suite ça convertisse. Mais non, il y a vraiment ce cheminement-là à avoir, visibilité, préférence de marque et ensuite les ventes.
C'est hyper intéressant. Mais après,
ça fonctionne.
Ouais.
Enfin, ça fait 3 ans et demi, là, du coup, ça va faire bientôt 4 ans que je fais ça. Et je vois les résultats que ça l'impact que ça peut avoir en termes de notoriété, en termes de préférence de marque, et puis après, effectivement, en termes de vente, quoi.
Et finalement, à quel type d'entreprise ça s'adresse, le marketing d'influence? Est-ce que chaque entreprise, peu importe son domaine, qu'elle soit e-shop, qu'elle vende des formations ou autre, parce que je sais qu'il y a de tout dans mon audience, est-ce que tout le monde peut bénéficier du marketing d'influence?
Ben justement, ça, c'est un peu une idée reçue qu'on peut avoir autour du marketing d'influence. Moi, souvent, enfin, il y a certaines personnes avec qui je parle qui me disent « Ouais, mais moi, en fait, le marketing d'influence, ça ne correspond pas à mon secteur d'activité. » Mais j'ai envie de leur dire « Mais pourquoi ?» Enfin, pour vous donner un exemple, pour te donner un exemple, moi, j'ai travaillé avec Speedy, donc réparateur automobile. On a fait du marketing d'influence, tu vois.
Ah ouais.
Et c'est possible.
Ouais.
Enfin, je veux dire, on avait fait des journées hyper sympas avec des créatrices de contenu qui sont venues, qui ont appris voilà, à changer une roue, à faire des manœuvres assez simples sur voilà, de réparation sur leur véhicule. Et puis, ça, on a fait ça en marketing d'influence, tu vois. Et donc, en fait, si tu te mets des barrières, toi, forcément, le marketing d'influence, il ne va pas t'aider. Mmh. Mais en revanche, c'est, comme je le disais, c'est un océan d'opportunités créatives. Donc, il y a des influenceurs qui parlent, qui sont spécialisés dans des secteurs vraiment de niche.
Ouais.
Et au contraire, justement, si toi, ton entreprise, elle est dans un secteur de niche, tu peux trouver quelqu'un qui va pouvoir en parler spécifiquement. Et ça, c'est super canon, en fait. Et ça peut, donc du coup, ça peut fonctionner pour des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, dans la mode, dans le cosmétique, dans la décoration. Mais ça peut fonctionner aussi pour des personnes qui ont une entreprise dans des prestations de services, en fait, tout simplement, qui vendent peut-être de la formation ou du coaching, ou par exemple des architectes. Je connais une architecte d'intérieur qui pourrait proposer tout à fait du marketing d'influence et proposer voilà, à quelqu'un, une influenceuse, de revoir travailler avec elle sur sa cuisine, etc., sur un projet de maison, tout simplement. Et c'est une manière pour elle de se faire connaître. Je pense notamment, tu vois, à Nolita en ce moment, là, qui a un gros projet. Nolita, c'est une influenceuse. Hein,
oui. C'est vrai qu'on part du principe que tout le monde connaît, mais en fait, non, si t'es pas dans le...
Pardon.
Tu fais pas attention, tu la connais pas, mais effectivement.
C'est ça, mais ça peut être hyper intéressant, voilà, c'est une des principales, enfin, une des très grosses influenceuses françaises, sur Instagram, et puis elle a un blog également. Et ben, tout simplement, voilà, pour donner un exemple, elle est en train de refaire, de créer... sa maison en fait sur Paris, et elle collabore avec plein de prestataires, des plombiers, des de tous les secteurs d'activité en fait qui peuvent l'aider dans la création de sa maison, tu vois. Et ben voilà, c'est une manière déjà de pouvoir se mettre en avant à travers des influenceurs, quoi.
Carrément.
Donc en fait, ça a énormément de monde, en fait, du moment que tu trouves les bons influenceurs et le bon dispositif pour le faire, tout simplement.
On va aborder tout ça après, mais j'avais une question, forcément, puisqu'on a parlé de Nolita. Est-ce qu'il faut absolument viser des gros influenceurs, ou est-ce qu'au contraire, une personne qui est influenceuse et qui a, par exemple, 20 000 abonnés, elle peut aussi créer beaucoup d'impact pour une entreprise?
Totalement. En fait, et c'est justement ça aussi, c'est marrant parce que du coup, on parle vraiment de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur l'influence, donc c'est très cool. Ça me permet un peu de les dégommer au passage. En fait, on a tendance à se dire que le marketing d'influence, c'est réservé pour les grosses marques, les grosses entreprises qui ont énormément de budget et qui du coup peuvent collaborer avec des gros influenceurs comme Nolita, ou comme un Thibaut InShape, ou comme une Enjoy Phoenix, etc., etc. Et en fait, pas du tout. C'est simplement que si tu as un budget qui est confortable, tu peux sortir l'artillerie lourde et travailler avec ce qu'on appelle des macro-influenceurs, voire même des méga-influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont entre 100 000 et plusieurs millions d'abonnés. Mais si tu as un budget qui est un peu plus serré, en fait, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de marketing d'influence, ça veut simplement dire que tu dois être plus malin et aller travailler éventuellement avec des influenceurs qui sont des nano-influenceurs qui ont entre 1 000 et 10 000 abonnés, ou des influenceurs qui ont entre 10 000 et 100 000 abonnés et qui sont des micro-influenceurs. Et ces influenceurs-là, c'est pas parce qu'ils ont une petite communauté, entre guillemets, qu'ils ne sont pas impactants et qu'ils ne peuvent pas avoir de la valeur ajoutée pour ta marque. Ça veut simplement dire qu'eux, ils vont travailler différemment. Ils vont avoir des atouts différents. C'est-à-dire qu'en fait, un macro-influenceur ou un méga-influenceur qui ont plus de 100 000 abonnés, ils vont te permettre de travailler énormément sur ta visibilité. Parce que ben, ils ont plusieurs milliers, plusieurs millions d'abonnés, et c'est très chouette. Mais par contre, ce qui va être un peu plus pénalisant pour eux, c'est que comme ils ont une communauté qui est très très large, ils n'ont pas la possibilité de répondre au quotidien à toutes les sollicitations qu'ils vont avoir de leurs abonnés, etc. Et donc forcément, ils vont avoir un lien de proximité avec leur communauté qui est un peu plus faible, on va dire. Donc en termes d'engagement, en termes de conversion, en termes d'achat, ils vont avoir des performances qui vont être peut-être un peu moins intéressantes. Parce que justement, ils n'ont pas ce lien très ténu en fait avec leur communauté. Quand je parle d'engagement, c'est en termes de likes, de commentaires, de messages, etc., d'interaction avec leur communauté. Alors qu'à l'inverse, un nano-influenceur ou un micro-influenceur qui ont entre 1000 et 100 000 abonnés, alors certes, ils vont apporter un peu moins de visibilité parce qu'ils ont une communauté qui est un peu plus petite. En revanche, ils ont cette faculté-là de pouvoir être de pouvoir répondre constamment aux sollicitations en fait, de leurs abonnés et donc d'avoir un lien très proche avec eux et donc un lien de confiance plus important.
Ouais.
Et donc, quand un nano-influenceur ou un micro-influenceur va recommander un produit, bah, sa communauté va avoir tendance à beaucoup plus lui faire confiance parce qu'il va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus proche de lui. Et donc, ça permet de généralement avoir un impact en termes d'engagement et de vente plus important.
Okay.
Donc, en fait, en fonction de ton budget, il faut être simplement en accord avec tes attentes.
Ouais.
Et il faut pouvoir se dire, OK, j'ai un gros objectif de visibilité, j'ai beaucoup de budget, je vais travailler avec un influenceur qui a énormément d'abonnés. J'ai un objectif qui est plus d'engager, de créer de la vente, etc. Et je n'ai pas beaucoup de budget. Bah, je vais plus aller vers un petit influenceur, entre guillemets, qui a un peu moins d'abonnés. Mais il a un peu moins d'abonnés, mais il sera du coup moins cher. Et il sera beaucoup plus disponible aussi.
Ouais.
Ce qui est intéressant, voilà. Et qui dit plus disponible dit qu'il pourra potentiellement créer du contenu pour ton business. Et dans ce cas-là, en fait, plus il va créer du contenu, plus il va t'offrir de la visibilité. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça se vaut avec un influenceur qui a énormément d'abonnés. Je ne sais pas si c'est très clair.
C'est très clair, ouais. Non, franchement, c'est hyper intéressant. Même moi qui étais dans ce milieu, là, je découvre un truc, je suis en mode, mais oui, c'est vrai.
Ah ouais, ouais, c'est cool. Mais tu vois, l'objectif, en fait, c'est de se dire que, en fait, chaque type d'influenceur va avoir un impact, mais après, tout dépend de...
De ton objectif aussi.
Voilà, tout dépend de ton objectif et du dispositif que tu vas mettre en place avec cet influenceur-là.
Ouais. Bon. Ok, très intéressant. Alors, du coup, forcément, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi les différentes étapes à mettre en place pour une bonne stratégie marketing d'influence? Et comme on l'a dit, ça s'adresse à tout le monde et à tout type d'entreprise. Donc, chaque personne qui nous écoute aura la possibilité d'avoir un aperçu concret de la feuille de route, si tu veux, pour une stratégie qui fonctionne.
Ouais. Alors déjà, moi, je dirais qu'il y a trois étapes qui sont hyper importantes. Enfin, c'est les trois piliers, en tout cas, que moi, je mets en place à chaque fois que je crée une collaboration.
Ouais.
Déjà, le premier, c'est un objectif clair. Mmh. On en a parlé justement parce que l'objectif que tu vas avoir va te permettre de déterminer avec quel type d'influenceur tu veux travailler et quel type de dispositif tu vas mettre en place. Si tu as un objectif, si tu estimes, enfin, si tu, dans ton entreprise, tu as beaucoup de visibilité déjà et que tu as un lien assez fort avec ton audience, bah, peut-être que tu vas pouvoir directement aller à l'étape vente. Mais si tu viens de te lancer, et que du coup, il faut effectivement que tu travailles ta visibilité, bah, dans ce cas-là, il faut rester sur l'objectif visibilité et avoir un dispositif qui soit cohérent avec cet objectif-là. Si jamais tu veux travailler ta visibilité, par exemple, ça va être peut-être un placement de produit, un post Instagram ou une vidéo TikTok, un challenge, etc. Si tu veux créer des ventes, ça va peut-être être plus une collection capsule, par exemple. Mmh. Ou si tu veux travailler plutôt ta préférence de marque, ça va peut-être plutôt être un concours. Tu vois, donc en fonction de ton objectif, il faut vraiment être hyper transparent avec soi-même et avec le développement de son business et de se dire ok, là mon business est assez mature, donc je peux travailler sur la préférence de marque et la vente, ou alors je viens de me lancer, ça sera plutôt de la visibilité, ou alors il faut que je travaille d'abord la visibilité et que je fasse ensuite en entonnoir le reste des objectifs. Mmh. Déjà voilà, c'est le premier objectif, c'est de se dire où j'en suis dans mon business, quel objectif j'ai et qu'est-ce que je dois travailler en premier. Une fois que tu as ça, ça te permet du coup de travailler ton deuxième pilier qui est ton dispositif, à savoir sur quelle plateforme je vais, pendant combien de temps, avec quel type d'influenceur et quel type de contenu je vais créer. Et alors là, ça fait beaucoup de questions, généralement. Ouais. Mais en fait, tout découle de tes objectifs aussi. Et tout découle en fait, de ton univers de marque, de tes valeurs. Admettons, si ton audience, c'est plutôt une audience très, très jeune et que tu as une marque assez sympa, assez cool, bah, peut-être que tu peux te permettre d'aller sur TikTok parce que c'est là où va être ton audience. En fait, tu choisis ta plateforme, ton réseau social en fonction de tes objectifs et de la cible que tu as.
Et même si la marque n'est pas sur TikTok, par exemple, c'est pas un problème que la marque n'y soit pas ou faudrait qu'elle y soit ?
Alors, c'est toujours plus intéressant que la marque y soit dans le sens où ça permet généralement de collaborer avec des influenceurs, ils te mentionnent et ça te permet de driver un peu de son audience vers ton compte. Maintenant, c'est pas non plus une condition sine qua non. Après, si tu n'es pas déjà sur TikTok, pourquoi y aller avec des influenceurs, tu vois, si tu n'y es pas déjà ? Parce que si tu as choisi, toi, en tant que marque, de ne pas te créer un compte sur TikTok, c'est peut-être parce que tu n'en as pas l'intérêt et parce que ton audience n'y est pas. Donc, ça ne sert à rien d'y aller si vraiment tu estimes que ton audience n'y est pas. Il faut vraiment aller là où tu sais que tu vas pouvoir directement te connecter avec ton audience.
Ouais.
Et où tu vas pouvoir justement profiter de cette collaboration, de cette visibilité que va t'apporter l'influenceur, tout simplement. Mais donc, voilà, c'est dans un premier pilier, les objectifs. Dans un deuxième pilier, le dispositif que tu vas mettre en place. Sur quelle plateforme tu veux aller, mais en fonction de ta cible. Quel contenu tu veux créer en fonction de ton objectif, encore une fois. Est-ce que ça va plutôt être de la story qui est spontanée, plutôt authentique et qui te permet de vraiment créer un lien direct avec ton audience parce que tu es dans une volonté de développer ta visibilité et ta préférence de marque ? Ou est-ce que ça va être un concours parce que tu veux développer ta préférence de marque ? Ou est-ce que ça va être un placement de produit parce que tu veux développer tes ventes ? Voilà, il y a tout plein de choses à prendre en compte. Mais en soi, ce n'est pas très compliqué, tu vois. C'est simplement, il faut se poser, définir ses objectifs, définir sa cible, et voilà, être en accord en fait, avec sa marque. Et après, tout découle seul, en fait. Et puis après, le troisième pilier, c'est... choisir l'influenceur.
Oui.
Et ça, c'est, je dirais, un pilier qui est l'un des plus importants aussi. Enfin, c'est vraiment... De toute façon, les trois piliers sont importants, j'ai envie de te dire. Mais choisir son influenceur, c'est peut-être le plus difficile, peut-être, parce que la facilité va être d'aller vers un influenceur que tu connais, parce qu'on t'en a parlé, ou l'influenceur du moment. C'est très souvent... On se dit, oh, ça serait super de travailler avec Léna Situation. Grosse influenceuse, mais parce qu'on entend parler de Léna Situation partout. Elle a écrit son bouquin, et voilà, c'est l'influenceuse du moment. Et donc, du coup, tu te dis, ah, il faut que je travaille avec elle. Mais bon, il faut avoir aussi être en accord, avoir les pieds sur terre, avoir le budget qu'il faut, etc. Et parfois, on a cette facilité-là de se dire, eh ben, je vais travailler avec la personne que je suis sur les réseaux. Et peut-être qu'effectivement, c'est la bonne personne parce que tu te reconnais et tu reconnais ton business à travers cette personne. Mais généralement, il faut vraiment prendre le temps et se dire, OK, regardez un peu toutes les personnes qui peuvent exister sur les réseaux sociaux parce que vraiment, il y a des tas de créateurs de contenu qui sont très talentueux. Et une fois qu'on a repéré voilà, quelques influenceurs qui nous ressemblent ou qui sont en accord avec nos valeurs, etc., en termes de ligne éditoriale, en termes de création de contenu, en termes de ce qu'ils proposent hein, en story, en post, en vidéo, etc., il faut se pencher un petit peu sur le taux d'engagement, à savoir, en fait, c'est tout simplement, le taux d'engagement, ça te permet de savoir si la communauté de l'influenceur est réactif au contenu qu'il propose. Parce que si son taux d'engagement est très bas, en dessous de 1%, bah, généralement, ça veut dire que le contenu qu'il va proposer autour de ta marque, il ne va pas être vraiment... comment dire, il ne va pas vraiment être commenté, liké. Ouais. Il ne va pas y avoir vraiment d'intérêt autour de ce contenu-là. Et du coup, c'est dommage. Parce que ça veut dire que derrière, la visibilité et l'engagement est un peu moins intéressant. et ça vaut pas le coup. Mmh. Donc, il faut voilà, vraiment prendre le temps de chercher un influenceur qui va correspondre à la marque en termes de valeur, en termes de création de contenu, en termes de qualité de contenu, en termes aussi d'engagement. Est-ce que vraiment il y a un rapport, une interaction avec sa communauté ? Parce que c'est ça qu'on recherche en marketing d'influence, c'est le lien avec la communauté. Est-ce que sa communauté, elle est... je perds mon mot, mais est-ce qu'elle est réelle ? Parce que c'est vrai que pendant un moment, au tout début du marketing d'influence, il y avait une course en fait au nombre d'abonnés, parce que plus on avait d'abonnés, plus on collaborait avec des marques, tu vois.
Ouais.
Et donc, il y a eu ce côté où il y a eu un petit peu ce biais où on est allé acheter des abonnés.
Mmh.
Et le problème, c'est que acheter des abonnés, ça te permet d'avoir une très, très grosse communauté. Mais après, en termes de visibilité, en termes d'engagement, en termes de conversion, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit et ne pas tomber dans le piège de la taille de la communauté et de se dire « Ah, cette nana, elle a 50 000 abonnés, elle voudrait bien collaborer avec moi, j'aime bien ce qu'elle fait, donc on y va. » Mais si son taux d'engagement derrière n'est pas bon, ou si son audience, elle n'est pas vraiment réelle derrière, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment, voilà, faut prendre le temps, en fait, ne pas se précipiter sur l'influenceur du moment ou l'influenceur qu'on connaît et on y va parce qu'on le connaît. Et ne pas se précipiter non plus sur la taille de la communauté parce que ça, c'est un gros, gros biais. Et comme je disais tout à l'heure, en fonction de la taille de ta communauté, tu peux avoir des avantages ou des inconvénients. Donc, voilà.
Et c'est pour ça qu'en général, on fait appel à toi, puisque tu aides finalement dans la sélection, à la fois dans la mise en place de la stratégie, mais aussi dans la sélection des différents profils avec lesquels travailler.
C'est ça. En fait, mon rôle, c'est d'accompagner la marque déjà dans la définition de ses objectifs.
Ouais.
Parce que c'est très dur hein, quand on est entrepreneur, quand on a son business, d'avoir parfois le recul suffisant de se dire... Bon, là, il faut d'abord que je passe par la case visibilité, que j'ouvre voilà, ma visibilité auprès d'une nouvelle audience. Donc, déjà, moi, je suis là pour faire un audit, tu vois, un petit peu du business et guider un peu sur l'objectif à développer via le marketing d'influence. Parce que ben, j'ai ce regard-là et ce recul-là de pouvoir savoir ce qui va fonctionner ou ce qui ne va pas fonctionner en marketing d'influence. Donc, c'est pour ça. Et puis après, effectivement, une fois qu'on a défini des objectifs avec la marque, mon rôle, c'est de les conseiller sur la plateforme, le type de contenu. Parce que voilà, encore une fois, je vais pouvoir savoir ce qui va vraiment fonctionner en termes de... par rapport à l'objectif et à l'univers de la marque, etc. Et mon rôle ensuite, c'est effectivement de recommander des influenceurs qui vont correspondre en fait au business qu'on doit mettre en avant grâce au marketing d'influence, quoi.
Ok, mais honnêtement, je trouve ça très intéressant. Puis du coup, ça me permet de découvrir comment c'est structuré, tu sais, de l'autre côté. Parce que moi, j'étais du côté influenceur. Mais du coup, c'est bien aussi de savoir finalement comment ça se passe côté marque. Ma dernière petite question, c'était forcément d'un point de vue légal. Comment ça se passe pour que tout soit en règle au niveau de la loi ?
Ouais. En fait, quand tu collabores avec un influenceur, tu peux mettre en place un contrat, en fait. Que chacun signe avec et dans ce contrat tu spécifies si tu veux la période de collaboration entre la marque et l'influenceur, tu spécifies les contenus qui ont été validés, qui vont être produits, la rémunération s'il y en a une, la contrepartie en fait qui a été définie en échange des contenus qui vont être créés, parce que je parle de rémunération mais tu peux aussi faire des collaborations avec des échanges de produits ou de services gratuits. Hein. Donc voilà, le tout, je répète encore une fois, parce que là, on pourrait se dire « Oh, je vais pouvoir faire des collaborations gratuites avec des influenceurs et tout, je leur enverrai juste mes produits. » Il faut, attention, que la collaboration soit juste entre la marque et l'influenceur.
C'est vrai.
C'est-à-dire que... on peut ne pas avoir de budget pour rémunérer l'influenceur, et c'est OK. Mais en revanche, il faut que ce que tu proposes en contrepartie soit à la hauteur de ce que tu demandes. Parce que souvent, je vois passer, voilà, on peut voir passer des listes de courses d'exigences, entre guillemets. Avec, je voudrais 4 stories, plus un post Instagram, une vidéo, etc. Mais par contre, je n'ai pas de rémunération, je t'enverrai un carton de produits. Bah non. ça peut pas fonctionner comme ça parce que en fait c'est pas une collaboration qui va être pérenne et qui va être optimisée et qui va avoir du sens entre pour la marque et pour l'influenceur sur le long terme en fait. Et moi justement mon rôle c'est de pouvoir transmettre les bonnes pratiques et entre guillemets à faire un peu de pédagogie autour de ça pour vraiment expliquer que collaborer avec un influenceur, si tu mets en place une collaboration qui soit vraiment juste, tu peux vraiment pérenniser cette collaboration-là. Ça peut vraiment devenir un ambassadeur pour toi. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Donc, il faut vraiment avoir ne pas perdre de vue qu'une collaboration doit être vertueuse pour les deux parties. Ouais, en fait.
C'est important, ça. C'est vrai, c'est bien voilà. Que tu mentionnes.
C'est un peu le credo, si tu veux, ma vision du marketing d'influence, c'est vraiment ça. Une collaboration qui soit vertueuse entre les deux. Et donc, si tu n'as pas de budget pour rémunérer l'influenceur, OK. Mais dans ce cas-là, il faut que tu sois en accord avec ton budget et avec tes attentes, que du coup, tu n'aies pas une liste de courses à leur demander en termes de création de contenu. Généralement, celle-là, c'est sur la base du volontariat, la création de contenu. Et il faut que l'expérience que tu proposes en retour, en termes de produits ou de services, soit à la hauteur, en fait, de la création de contenu qu'il va y avoir derrière. Et enfin... revenir à la partie un peu plus juridique. Dans le contrat, voilà, on précise un peu tout ça, tous les détails de la collaboration, la durée, le nombre de contenus qui vont être créés, etc. Et puis, il y a tout un tas d'accords, en fait, sur le respect, en fait, de la marque, le respect de l'influenceur, etc. Et puis ça, c'est un contrat qui est signé, en fait, entre la marque et l'influenceur et qui permet de protéger, en fait, les deux, tout simplement. Parce que, du coup, c'est un document qui te permet de savoir ce que la marque doit faire, ce que l'influenceur doit faire, c'est un engagement entre les deux qui permet de protéger en fait l'un et l'autre. Après, t'es pas forcément obligé de passer par la case contrat.
Ouais.
Si c'est un influenceur avec lequel tu as un bon contact, etc. Je recommande toujours le contrat parce qu'au moins tu es sûr et il n'y a pas de souci, voilà. Mais après. Moi qui ai l'habitude de travailler avec un réseau d'influenceurs depuis plusieurs années, etc., si tu veux, je ne fais pas forcément un contrat avec eux quand je sais que, par exemple, c'est un voyage presse, on n'a pas fait de contrat ensemble, oui. Tu vois, oui. Ça n'avait pas de sens. Voilà. Ça dépend vraiment de la collaboration et puis de la relation que tu as avec l'influenceur, je dirais. Mais après, si tu veux être safe...
Ouais.
Tu fais un contrat, c'est très simple. Je pense que moi, à terme, sur mes réseaux sociaux, je proposerai un template, tu vois. Ouais. Ça peut être un point bloquant pour certaines marques qui disent, mince, je veux être protégée, enfin, je veux que voilà, tout soit carré, etc. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, je ne sais pas quoi dire dans le contrat, etc. Donc, je pense que je proposerai ça. Ça peut aider, en fait, je pense. Beaucoup d'entrepreneurs et de marques qui veulent collaborer avec des influenceurs.
Mais carrément. Ouais. Ben en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils que tu nous as partagés aujourd'hui. Je trouve ça hyper intéressant, pour le coup. Et je pense que, tu vois, que comme moi, il y a plein de gens qui ne se doutent pas, en fait, de ce que ça implique, une stratégie marketing d'influence. Et ce n'est pas juste envoyer un mail aux influenceurs pour leur dire « J'ai telle offre, tel produit, tel service. Est-ce que tu veux en parler ?» Voilà, voilà. Et ça nécessite, comme pour tout, finalement, en marketing, de bonnes fondations pour que ce soit efficace et que ça fonctionne.
Exactement, c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment bien réfléchir en amont et puis bien réfléchir en amont au dispositif, aux objectifs, à l'influenceur que tu veux choisir. Parce que, en fait, si tu ne le réfléchis pas, si tu ne réfléchis pas ta stratégie, le risque, en fait, c'est de ne pas avoir en fait, les résultats que tu attends derrière. Et d'être en fait. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, en fait. Et l'influenceur, si tu vas le voir comme ça, un petit peu au pied levé, parce que tu as vu que il avait l'air super intéressant et qu'il pouvait parler de ta marque et que tu n'as pas réfléchi à une stratégie derrière, en fait, l'influenceur, il va se retrouver un peu perdu parce que peut-être qu'il va bien vouloir parler de ta marque, mais il ne sait pas trop, tu vois, comment il va devoir en parler, etc. Et en fait, c'est à toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable de ta marque, de fixer, tu vois, un cadre quand même à comment tu veux qu'on mette en avant ton produit ou ton service. Et ça se réfléchit, quoi. Et une fois que tu as bien réfléchi à ça, ça te permet de briefer correctement l'influenceur pour qu'il crée du contenu et que tu sois satisfaite du contenu qu'il va créer pour toi, que ça renvoie une image qui soit juste de ton produit, de ton service et que après ça ait un impact qui soit canon pour toi à l'avenir, quoi. Donc ça suffit. C'est pas non plus. Faut pas que ça fasse peur aux gens. Hein. L'objectif, c'est pas de dire c'est hyper compliqué, etc. Non, pas du tout. Il y a juste trois étapes à respecter l'objectif, le dispositif et l'influenceur. Et puis voilà, mais il faut simplement voilà, ça se réfléchit comme toute stratégie.
Exactement.
Dans son business, quoi.
Exactement. Bon, du coup, ce qui est bien, c'est que tu as créé un compte Instagram où tu parles de tout ça. Donc, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'approfondir le sujet et d'en savoir plus, il y a ton compte Insta, jade-influence-8. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de trait d'union de toute façon sur Instagram. Bon, ouais. Et puis, tu disais que tu es aussi sur LinkedIn.
Ouais, je suis exactement aussi sur LinkedIn, où je partage en fait, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, je partage un petit peu mes astuces, les bonnes pratiques à avoir en marketing d'influence, des chiffres aussi, des études que je peux consulter, etc. Et qui peuvent être intéressantes justement à connaître en tant qu'entrepreneur, pour justement après pouvoir réfléchir à sa stratégie de marketing d'influence et pouvoir l'adapter tout simplement. Je partage aussi voilà, des comptes de créateurs de contenu avec lesquels j'ai pu collaborer ou avec qui j'aimerais bien collaborer et qui créer du contenu qui est hyper qualitatif. Ouais. Et du coup, ça peut être des sources d'inspiration pour des entrepreneurs qui veulent se lancer en marketing d'influence, mais qui ne savent pas trop par où prendre la chose, ouais. Tu vois, qui ne savent pas trop par où commencer, etc. Et donc, n'hésitez pas à venir voilà, sur Instagram ou sur LinkedIn où je donne voilà, plein de petits tips comme ça et puis en espérant que ça puisse en aider voilà, le plus possible.
Carrément, je mettrai tout ça de toute façon dans les notes de l'épisode, comme ça les gens ne seront qu'à un clic de te retrouver. Merci beaucoup Jade pour ton temps et puis pour toute cette valeur que tu nous as partagée aujourd'hui.
Bah avec plaisir, merci à toi Safia, c'est vraiment très très chouette de t'avoir retrouvée autour de ton micro.
Voilà. Et ouais, je suis contente qu'on ait gardé tu vois, le lien, mais dans un autre cadre, dans un autre contexte.
Ouais. Et en plus c'est sympa, tu vois, parce que justement le marketing d'influence, c'est toute une question de lien, de relations humaines, tu vois.
C'est vrai.
De partage d'influence, et c'est ça qui me fait kiffer en marketing d'influence, et c'est ça qui est, enfin c'est pas une publicité, une forme de publicité comme les autres. Quoi.
Ouais. Je te rejoins.
C'est du lien, de la créativité, de l'humanité, du partage et tout, et ça c'est cool. Voilà.
Carrément, merci beaucoup.
Salut.
J'espère que cet échange avec Jade vous aura plu. Honnêtement, je l'ai trouvé hyper intéressant et moi-même qui étais dans ce business-là, je n'avais même pas conscience de tout ce que ça impliquait de mettre en place une campagne de marketing d'influence. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez maintenant plus de clarté et plus de clés pour considérer tout ça. Et si vous avez envie de suivre Jade au quotidien pour découvrir ses meilleurs conseils et pourquoi pas travailler avec elle, eh bien vous avez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.